VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, édition du vendredi 17 février 2017, en direct de Washington. Idrissa Sedoudia et Anne Albertson pour commencer les titres.
En Côte d'Ivoire, une manifestation de producteurs de cacao a été dispersée hier à coups de gaz lacrymogène.
Nouvelle tournée africaine du roi du Maroc, Mohamed VI. Première étape, le Ghana.
Au Pakistan, au moins 75 morts et 250 blessés dans un attentat suicide revendiqué par le groupe État islamique.
Et en Irak, un autre attentat du groupe État islamique a fait au moins 52 morts et des dizaines de blessés à Bagdad.
Ici à Washington, le président Donald Trump s'en est pris avec virulence hier à ce qu'il a appelé la malhonnêteté de la presse.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la minute écho pour l'instant, le journal.
La communauté internationale est inquiète de l'impasse politique en République démocratique du Congo. Les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne et l'Organisation internationale de la francophonie se disent de plus en plus préoccupés par le blocage des discussions sur l'application de l'accord de sortie de crise. Dans un communiqué commun, les quatre organisations estiment que cette situation risque de saper la volonté politique qui a permis la signature de l'accord le 31 décembre dernier.
La justice portugaise a inculpé pour corruption le vice-président angolais. Manuel Vicente aurait payé plus de 800 000 dollars à un magistrat portugais pour qu'il classe sans suite une enquête sur une affaire présumée de blanchiment d'argent impliquant des investissements angolais au Portugal.
Human Rights Watch accuse un groupe armé centrafricain issu de l'ex-rébellion Séléka d'avoir assassiné en décembre 32 civils dans une localité du centre du pays. L'ONG qualifie ces exécutions de crimes de guerre. Bakala est située dans la préfecture de Waka où des affrontements meurtriers opposent régulièrement des factions rivales de l'ex-Séléka près de la ville de Bambari.
La police a dispersé à coups de gaz lacrymogène une manifestation de producteurs de Côte d'Ivoire, producteurs de cacao, la Côte d'Ivoire étant le premier exportateur mondial de la fève, organisée cette manifestation pour dénoncer la mévente des récoltes. Les précisions de John Linden.
Plusieurs dizaines de producteurs brandissant des pancartes proclamant « Tout notre cacao va à crédit » se sont rassemblés au plateau quartier des affaires d'Abidjan pour déplorer l'immobilisation de plusieurs tonnes de cacao au port d'Abidjan à la suite du blocage du système d'achat mis en place par les autorités. Depuis novembre 2016, les producteurs n'arrivent plus à écouler leurs récoltes. Le prix bord champ du kilo de cacao fixé à 1100 francs CFA par le gouvernement n'est même plus respecté, a déploré Moussa Koné, président du syndicat national des producteurs pour le progrès. Selon un exportateur qui a requis l'anonymat, tout est parti du gap de 470 francs CFA qu'il y a entre le prix du cacao à la Bourse de Londres qui est de 1380 CFA et le prix de vente à l'exportation imposé par le Conseil ivoirien du cacao-café qui régule la filière, qui est de 1850 francs CFA. Le cacao est vital pour l'économie ivoirienne. Ce secteur représente 15 % du PIB et plus de 50 % des recettes d'exportation.
Quelques 170 migrants sénégalais qui se trouvaient dans des centres de rétention à Tripoli ont été rapatriés vers leur pays. Le groupe entièrement composé d'hommes a pris l'avion tôt jeudi à l'aéroport de Mitiga, à l'est de Tripoli, dans le cadre d'un programme de rapatriement supervisé par l'Organisation internationale pour les migrations. Mardi, près de 200 migrants nigériens avaient déjà été rapatriés vers leur pays.
Et au Sénégal, même condamnation hier d'un député pour coups et blessures volontaires lors de violences politiques meurtrières en 2011 à Dakar. Barthélémy Diaz a écopé de 2 ans de prison, dont 6 mois ferme. Dissident de la majorité présidentielle, il est reparti libre du tribunal correctionnel de Dakar, car il a déjà purgé les 6 mois en détention préventive.
Mohamed VI, le roi du Maroc, a entamé hier une nouvelle tournée africaine, commençant par le Ghana, et ce 2 semaines après le retour du royaume au sein de l'Union africaine. Des précisions avec Abdourahmane Dia.
Le communiqué du ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie annonce qu'après le Ghana, le roi Mohamed VI se rendra dans plusieurs pays africains sans préciser lesquels. La presse marocaine évoque la Zambie, le Mali, le Kenya, la Côte d'Ivoire et la Guinée. Mohamed VI s'était rendu début février à Juba pour sa première visite officielle au Soudan du Sud avant d'effectuer une visite privée au Gabon. Fin janvier, les chefs d'État africains réunis en sommet à Addis Abeba ont entériné le retour du Maroc au sein de l'UA. Le Maroc avait officiellement demandé à réintégrer l'organisation que Rabat avait quittée en 1984 pour protester contre l'admission de la République arabe sahraoui démocratique. Le Front Polisario, soutenu par l'Algérie, milite pour l'indépendance du Sahara occidental, alors que Rabat propose une large autonomie sous sa souveraineté.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Pakistan, un attentat suicide revendiqué par le groupe État islamique a fait au moins 75 morts, dont 30 enfants, et 250 blessés hier soir dans un sanctuaire soufi du sud du Pakistan, ce qui a choqué le pays après une série d'autres attaques en début de semaine. L'attentat s'est produit dans la ville de Chewan, à environ 200 km au nord-est de la mégapole portuaire du sud, Karachi.
Et en Irak, le groupe État islamique a revendiqué l'attaque meurtrière perpétrée hier à Bagdad. Une voiture piégée a explosé dans le sud de la ville, tuant au moins 52 personnes et en blessant des dizaines. Les détails avec Jacques Aristide.
Il s'agit de l'attentat le plus meurtrier à frapper la capitale irakienne cette année et du troisième en trois jours, toujours à Bagdad. La puissante explosion s'est produite dans une zone de concession automobile dans le quartier de Bayaa. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montraient des corps calcinés et déchiquetés ainsi que d'importants dégâts alors que des civils bouleversés étaient à la recherche de proches. Le groupe État islamique affirme avoir visé un rassemblement de chiites. Le même quartier a été touché mardi dernier par un attentat à la voiture piégée qui avait fait 4 morts. Mercredi, un kamikaze avait fait exploser sa voiture piégée dans le quartier à majorité chiite de Habibiya, dans le nord de Bagdad, tuant 11 personnes. Les djihadistes sont la cible d'une offensive des forces irakiennes qui cherchent depuis la mi-octobre à les chasser de Mossoul, leur dernier grand fief en Irak.
Ici à Washington, le président Donald Trump s'en est pris avec virulence hier à ce qu'il a appelé la malhonnêteté de la presse. C'était au cours d'une conférence de presse à la Maison-Blanche, conférence de presse marquée par une hostilité évidente entre le président et les journalistes. Compte rendu de Jean-Roger Bion.
Pendant près d'une heure et demie, Donald Trump a défendu énergiquement son début de mandat agité et s'est lancé dans de longues tirades contre les médias. Le président américain a dénoncé un niveau de malhonnêteté hors de contrôle des médias et la haine dont il fait l'objet de la part de journalistes qui ne parlent pas pour le peuple. « J'ai hérité d'une situation chaotique aux États-Unis comme à l'étranger », a justifié Donald Trump, rejetant les accusations de chaos au sein de son administration qu'il décrit comme une machine bien réglée. Donald Trump a promis une enquête du ministère de la Justice pour démasquer les auteurs des fuites criminelles qui ont conduit à la démission de son conseiller à la sécurité nationale, Michael Flynn, pour des contacts inappropriés avec la Russie. Il a accusé des gens d'Obama en poste dans les différentes agences du gouvernement d'être à l'origine des fuites à la presse. Certains journalistes présents n'ont pas hésité à affronter directement le président et à qualifier de fausse, par exemple, sa déclaration selon laquelle il est le président le mieux élu, en soulignant que Barack Obama et George H.W. Bush ont remporté davantage de votes au collège électoral. « Je ne sais pas, c'est ce qu'on m'a dit », a concédé M. Trump.
Et le président Trump a par ailleurs rejeté hier toute accusation de collusion avec la Russie de Vladimir Poutine pendant la campagne électorale, au cours de laquelle les renseignements russes sont accusés d'avoir piraté des proches de Hillary Clinton. Il a refusé de dévoiler son jeu quant à un éventuel rapprochement avec Moscou, laissant entendre que tout nouveau départ dans la relation n'était pas automatique et devrait d'abord servir les intérêts américains.
Et pour sa part, le secrétaire américain à la Défense, Jim Mattis, a exclu toute collaboration militaire entre les États-Unis et la Russie, déclarant que les conditions actuelles n'étaient pas et je cite, idéal. Et il a ajouté, nos leaders politiques se parleront et tenteront de trouver un terrain commun. Monsieur Matisse, qui participait hier à une réunion de membres de l'OTAN à Bruxelles, réagissait à une déclaration de son homologue russe Sergueï Choïgou, selon laquelle Moscou était prêt à restaurer sa coopération avec le Pentagone.
Le décret interdisant temporairement aux ressortissants de 7 pays musulmans d'entrer aux États-Unis, dont la justice américaine a suspendu l'application, sera remanié la semaine prochaine. C'est ce qu'a annoncé jeudi le président Donald Trump dans sa conférence de presse. « Nous avons eu un mauvais tribunal, une mauvaise décision », a-t-il déploré, promettant que la nouvelle version serait tout à fait conforme à la législation. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Écho, Morgane Guiriec.
La Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale française fait paraître un rapport pour mieux informer les investisseurs français en Côte d'Ivoire. Le rapport évalue notamment la situation économique depuis qu'Alassane Ouattara est au pouvoir. La Commission déplore des problèmes fonciers et la tendance pour Abidjan à nouer des partenariats avec des Chinois, des Marocains et des Nigérians. Afrique du Sud, le gendarme de la concurrence estime que le cours du rand a été truqué. Les autorités recommandent que 17 banques soient sanctionnées. Le tribunal de la concurrence doit trancher, indique Jeune Afrique. Et enfin, invasion de chenilles légionnaires. L'ONU prévient que le parasite qui détruit déjà les plantations de céréales de plusieurs pays d'Afrique australe pourrait rapidement se propager à toute la région, menaçant la sécurité alimentaire et le commerce.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Reprise de la Linafoot en RDC.
Oui, les autorités congolaises ont annoncé à Kinshasa la reprise du championnat de football de première division 2 mois après sa suspension pour des raisons de sécurité. Le point avec Thierry Kambundji de Top Congo FM, notre partenaire à Kinshasa.
Arrêté depuis le 14 décembre dernier par le ministre des Sports, le championnat national a repris officiellement ses droits ce jeudi, soit 2 mois après. Évoquant des violences à répétition, le numéro 1 du sport d'alors avait exigé des garanties à la Fédération Congolaise de Football Association et à la Ligue Nationale de Football, organisatrice du championnat de la Division 1, avant d'en autoriser la reprise. Depuis, l'eau a coulé sous le pont. Un autre ministre a été nommé et des réunions se sont multipliées jusqu'à la levée de la suspension. Et pour marquer cette reprise, l'AS Dauphin Noir de Goma a été accroché à domicile par Bukavu d'avoir un but partout. Très attendu à l'ouest, le derby de la capitale entre l'ASV Club et le Daring Club Motema Pembe ce mercredi 22 février. Kinshasa, Thierry Kambundji de Top Congo FM pour VOA Afrique.
On reste à Kinshasa pour parler de la Coupe de la CAF.
Après le match nul 0-0 à l'aller au tour préliminaire de la Coupe de la Confédération, le FC Renaissance joue sa qualification face au club gabonais du FC Akanda. Ce sera au Stade des Martyrs à Kinshasa, le club quinois qui doit l'emporter pour se qualifier.
Ligue Europa hier soir.
La Roma, victoire éclatante à Villarreal, 4-0. Grâce à un triplé de Zlatan Ibrahimovic, Manchester United a pris une très grosse option pour les huitièmes de finale en battant Saint-Etienne 3-0 à Old Trafford. Vainqueur logique 2-0 d'un Zénith Saint-Pétersbourg sans compétition depuis plusieurs semaines, les Belges d'Anderlecht ont fait un grand pas vers la qualification. Autre équipe bien partie pour se qualifier, Schalke 04, qui a sèchement battu le PAOK Salonique à l'extérieur 3-0, comme le Beşiktaş face à l'Apoel Beersheva 3-1. A l'inverse, la qualification est loin d'être acquise pour l'Ajax d'Amsterdam, qui a fait jeu égal avec le Legia Varsovie 0-0. Même chose pour l'Athletic Bilbao, vainqueur de l'Apoel Nicosie à San Mamés 3-2.
La FIFA contre-attaque.
Oui, la Fédération internationale de football affirme qu'il n'y a aucune preuve d'effet négatif suite à des coups de tête ou à divers chocs au lendemain d'une étude sur les risques plus élevés pour les footballeurs professionnels de contracter une maladie du cerveau. On rappelle que l'étude publiée mercredi dans la revue médicale Acta Neuropathologica a été faite sur 14 anciens footballeurs, dont 13 professionnels, atteints de démence et hospitalisés à Swansea entre 1980 et 2010. Allez Idrissa, on vous laisse donner les résultats de la nuit en NBA.
2 matchs seulement hier soir. Washington a battu Indiana 111-98 et Boston a perdu face à Chicago 103-104.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, plus de 150 films vont à la conquête de l'étalon d'or de Yenanga à la 25e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, le FESPACO. Des innovations de taille sont annoncées autour du thème « Formation et métier du cinéma et de l'audiovisuel ». Les détails avec notre correspondant sur place, Issa Napon.
Les professionnels du 7e art veulent réfléchir sur l'industrialisation du cinéma africain en cette édition du FESPACO, d'où la nécessité de se pencher sur la formation aux différents métiers du cinéma, condition cardinale pour exister sur le marché du 7e art, selon le responsable de la commission thème et l'un des rares lauréats burkinabés de l'étalon de Yenenga, Gaston Kabouré.
Il est clair qu'aujourd'hui, l'image est devenue le nouvel alphabet d'aujourd'hui. Et si nous ne formons pas des gens capables de produire avec ce langage à un certain esprit critique, ben nous allons devenir des consommateurs hébétés de la production d'autres imaginaires, d'autres industries. Et je dirais que le FESPACO est justement là pour permettre qu'une expression cinématographique africaine existe dans sa diversité, mais aussi qu'on arrive à bâtir une industrie parce que c'est un secteur économique et il faut aussi que le cinéma et l'audiovisuel s'enseignent de plus en plus dans les écoles primaires, les lycées et dans les universités.
Une vision vers une économie réelle du cinéma africain défendue par le délégué général du FESPACO, Ardjiouma Soma.
Nous sommes en Afrique, nous sommes dans le cinéma d'auteur. Et aujourd'hui, il faut que notre cinéma s'inscrive dans une démarche économique. Et pour attirer le plus de public dans les salles de cinéma, il faut mettre l'accent sur les stars. Et les stars, ce sont les comédiennes et les comédiens.
De grands changements, il y en a à ce FESPACO, notamment la cérémonie d'ouverture qui quitte son stade mythique du 4 août pour le stade municipal Issoufou Joseph Konombo, un peu plus petit. Difficile aussi de ne pas y voir la nécessité de bien verrouiller le dispositif sécuritaire qui est fin prêt, souffle le commissaire Sankara. Il est en charge de la sécurité du FESPACO.
Nous serons sur les lieux de projection de rue Marchande, partout où il y aura du monde. Et à ce niveau-là, je pense que nous sommes en mesure de dire que nous sommes confiants. Naturellement, nous allons mettre en place un dispositif qui va amener des contraintes.
À noter dans les innovations majeures cette année, un tapis rouge déroulé à l'occasion du Celebrity Day. La responsable à l'organisation, Georgette Paré, elle-même star du cinéma africain.
Il s'agira de rendre hommage à l'ensemble des acteurs. Ça va se passer au cours d'une nuit. On permettra aux acteurs de se rencontrer. Alors, on a Isaac de Bankole qui a été annoncé par la Côte d'Ivoire. Il y a le comédien de Nollywood, John Dumelo. Et il y a également le comédien de Jacob Scross, qui s'appelle Fabian et qui a joué le rôle de Bola Abayomi.
Une innovation majeure du 25e Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou qui va attirer cette année plus de 7000 festivaliers avec comme invité d'honneur la Côte d'Ivoire dont une forte délégation est attendue pour partager sa culture à travers plusieurs aspects dont le village Akwaba en plein centre-ville de la capitale. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Au Burkina Faso, donc, vous avez entendu ce reportage de Issa Napon. Maintenant, nous passons au Congo-Brazzaville, où le gouvernement organise depuis quelques jours un salon du bois pour permettre aux artisans d'exposer leurs meilleures œuvres et s'imposer ainsi sur le marché local envahi par les articles venant de l'étranger. Les Congolais ne s'intéressent pas souvent aux articles des menuisiers locaux qui sont pourtant de bonne qualité, nous dit de Brazzaville notre correspondant Nguela Ngoussou.
Maître Pedro, devant son atelier à Wenze, expose des meubles dans les lits et des armoires de qualité. Rien à voir avec ce qui vient de l'étranger. Il est déterminé et optimiste à s'imposer malgré la concurrence.
Parce que ce n'est pas normal et que le bâtiment qui sont construits au Congo et qu'il y a le bois, il y a aussi des menuisiers qui sont là, des maîtres artisans, et que tout ça soit équipé par des étrangers ou bien que le meuble qui vient de l'étranger. Des agglomérés qui n'ont même pas du temps de vivre. Or, là, nous avons travaillé dans la durée. Quand vous voyez des portes que nous avons fabriquées, là, c'est des portes qui sont vraiment du massif solide. Au fait, tout ce qui est l'artisanat, c'est ce qui est fait à la main, mais c'est ça ce qui est bien, ce qui dure. C'est la passion, mais ce n'est pas seulement le commerce.
Dans son atelier, marché total de Bakongo, Maître Sylvestre est sur toute la chaîne du bois. Du sillage à la tour, jusqu'aux finitions des meubles à la panse, il ne néglige rien, malgré les difficultés et l'absence du matériel adéquat.
La capacité y est. Voilà pourquoi nous avons même présenté des tables bancs avec dossiers, pour que le pouvoir public puisse comprendre que les menuisiers que nous sommes prêts à réaliser des tables bancs avec dossiers.
Pas la peine de commander à l'étranger.
Pas la peine. Vraiment, pour ça, je mets une croix. Qu'on arrête vraiment ça. Nous fait du mal quand on voit des tables bancs qui viennent de l'extérieur, vraiment, qui finissent même par s'abîmer après 3 mois.
Maître Malonga, spécialiste des cercueils, s'est fait des astuces pour s'adapter sur le marché.
On a des catalogues. Ouais, c'est là les chats qui vont faire du mélange. Tu commences à faire du boulot, de soirée. Si il y a une maquette, on nous montre les maquettes, tu peux comparer quelque chose que ça vient de l'Europe.
Pour promouvoir le travail des artisans, les autorités ont organisé un salon de meubles. Justin Sikula est le patron de cette première édition.
Si on minimisait, on ne devait pas les mettre à nu, on ne devait pas les mettre sur un marché comme celui-ci. Mais nous connaissons la valeur, nous connaissons les potentialités de nos artisans.
Conscients des enjeux, les artisans du bois se sont constitués en coopérative. L'ébéniste Francis Ngangé en est le président.
Aujourd'hui, l'ANA nous a récupérés parce qu'on est dans l'association. Or, individuel, c'est vraiment beaucoup plus difficile de se faire connaître. La publicité et tout. Or, l'ANA, l'agence ANA, a pris cette initiative pour faire connaître les ouvriers à travers les associations.
Longtemps considéré au Congo comme le rempart de ceux qui n'ont pas réussi à l'école, l'artisanat du bois est à présent à la croisée de nombreuses opportunités d'affaires et d'emploi. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique à Brazzaville, sur le 101.9 FM.
L'insertion au Cameroun n'est pas chose aisée pour tout le monde, détenteur ou pas de la carte de réfugié, qu'ils soient en âge de travailler ou pas, étudiants ou artistes, ces jeunes venus pour certains de la Centrafrique doivent fournir beaucoup d'efforts pour joindre les deux bouts, une histoire de survie au quotidien. Le constat de notre correspondant au Cameroun, Emmanuel Juntap.
La voix est celle de Pico, un jeune comédien-conteur centrafricain, ex-résident du quartier Boirame à Bangui. Arrivé au Cameroun en septembre 2013 du fait de la guerre dans son pays, il est aujourd'hui hébergé par un expatrié français et gagne désormais sa vie au prix de son talent de comédien-conteur.
En tant que comédien, théâtre que je fais, et j'enseigne aussi à l'école. L'art me donne un peu, à l'école aussi ça me donne un peu. Parfois du jour aujourd'hui ça ne paye pas, et demain quelqu'un me trouve et dit « Ah c'est toi l'artiste là ?» Il me donne 30 000, 50 000.
Quant à Syriac, c'est son effort intellectuel qui lui a valu le statut d'étudiant réfugié centrafricain. Il est aujourd'hui boursier du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés du Cameroun.
On nous a soumis à un test de niveau. Nous étions plus de 200 et quelques réfugiés pour 10 places. On nous a exigé pour qu'on maintien dans le programme de la bourse, il va falloir qu'on trouve une moyenne de 12 à la fin de notre formation chaque année.
La bourse en question lui donne droit à 70 000 francs CFA par mois et 650 000 francs CFA par an pour ses études. Syriac ne saurait demander plus. Tout comme Michael, un autre jeune centrafricain, 22 ans, lui aussi réfugié de guerre. C'est une église évangélique qui est désormais sa raison de vivre au Cameroun.
L'église, ça fait déjà un an que je travaille dans cette église, Vara Contre, Temple des Nations. Je suis assistant monteur, donc ça m'aide aussi à assumer certaines responsabilités que moi j'assume.
L'insertion des jeunes centrafricains au Cameroun concerne aussi Socrate, l'ancien responsable multimédia de 2008 à 2012 de la cellule de presse du président François Bozizé, a dû se reconvertir ailleurs.
Présentement au Cameroun,
zone. J'ai mon petit structure audiovisuelle. Nous faisons les reportages audiovisuels, les clips vidéo. J'ai créé une radio web.
Cependant, Yaoundé n'est pas favorable à tous les jeunes réfugiés centrafricains. Trésor et trois de ses compatriotes partagent les mêmes souffrances d'une vie à la belle étoile au Cameroun.
Il faut que je vois marcher ou trouver même une petite job qui peut me donner même 1000 francs.
Tu dors où ?
Je dors seulement dehors.
Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Cameroun, près de 260 000 réfugiés centrafricains sont sur le territoire camerounais. Officieusement, il serait un peu plus, car de nombreux centrafricains ayant fui la guerre pour venir au Cameroun ne sont pas enregistrés au HCR. Gonflant ainsi la liste des candidats à la survie au Cameroun. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Journée sans les immigrés dans plusieurs villes des États-Unis, une journée de boycottage lancée hier par les immigrés aux États-Unis et ceux d'Afrique ont répondu nombreux à cet appel. L'objectif, montrer le poids des immigrés dans l'économie américaine. Delidico a joint à New York une restauratrice sénégalaise qui a préféré garder l'anonymat.
Les immigrés qui n'ont pas des papiers, ils ont peur. Celles qui ont des papiers même sont peur. Parce que si les immigrés ne travaillent pas, l'Amérique ne sera pas bien. Parce que ici, c'est les immigrés qui travaillent. Parce que ce qu'elle fait là, ce n'est pas bon pour l'État, ce n'est pas bon pour les personnes. Hein? Chaque fois, les gens sont peur, les élèves ne peuvent pas partir à l'école, les gens sont peur, les gens ne sortent pas. Tout ça là, c'est pas bon pour l'État, parce que l'argent devait circuler. C'est ça qui est bon pour le peuple. C'est pour ça que les gens sont très peur.
Selon vous, à quel point les immigrants participent-ils à l'économie américaine?
C'est les immigrés qui font tout. Tous les travaux durs, c'est les immigrés qui font ça. Il n'y a pas un Américain blanc qui fait les travaux durs là. C'est les immigrés qui viennent travailler, se battre. Tous les travaux qu'on fait, c'est les immigrés qui font ça. Tout le travail que tu vois ici, c'est les immigrés qui font ça. C'est les immigrés qui se battent pour l'État. Si les immigrés ne travaillent pas, ce n'est pas bon pour l'État. Ils achètent beaucoup de choses et ils dépensent. Tu as vu, les avions n'est pas venus. Les gens qui venaient en Afrique, qui venaient payer des marchandises ici, ne sont pas venus. Ce n'est pas bon.
Quelles sont vos craintes à ce jour? Qu'est-ce qui vous fait peur?
Je n'ai pas peur parce que si on nous cherche, on va retourner dans notre pays. Mais ce n'est pas bon. Comme tout le monde est fermé, on va fermer. C'est ça. Et les étudiants sont très fatigués ici. Ils sont très fatigués. On n'a jamais vu un président comme ça qui vient traumatiser les gens ici. C'est la première fois en Amérique.
Eh bien, c'était une restauratrice sénégalaise jointe à l'occasion de la journée sans les immigrés. Elle réside à New York.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlons du cancer du col de l'utérus.
Nous nous sommes rendus au Cameroun où le cancer du col de l'utérus est le deuxième type de cancer le plus courant après celui du sein.
Nous recevons comme invité le professeur Pierre-Marie Thébeu, gynécologue et obstétricien. Il nous expliquera comment se manifeste la maladie et comment la prévenir.
Et nous écouterons aussi le témoignage du professeur Anderson Dor, secrétaire permanent du Programme national de lutte contre le cancer. Il nous dira ce que font les autorités pour combattre la maladie.
Votre santé, votre avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h, temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.